Chapitre 4. Les philosophes de la nature. Rien ne naît du néant. Quand sa mère entra du travail dans l'après-midi, Sophie se balançait dans le jardin et tentait d'établir un lien entre le cours de philosophie et Hilde Möller-Knag qui ne recevrait jamais la carte d'anniversaire de son père. « Sophie !» cria sa mère de loin. « Il y a une lettre pour toi !» Elle tressaillit. Elle avait déjà été prendre le courrier tout à l'heure. Ce ne pouvait être qu'un coup du philosophe. Qu'allait-elle dire à sa mère? Lentement, Sophie quitta la balancelle et alla chercher sa lettre. « Il n'y a pas de timbre. Je parie que c'est une lettre d'amour. » Sophie prit la lettre. « Tu ne l'ouvres pas ?» Que répondre? « Tu as déjà vu quelqu'un ouvrir une lettre d'amour devant sa mère, toi ?» Tant pis. Autant la laisser croire ce qu'elle voulait. Sophie se sentait terriblement gênée, car elle était aux antipodes de recevoir une lettre d'amour. Mais cela aurait été finalement encore pire si sa mère avait su qu'elle recevait par correspondance des cours de philosophie de la part d'un inconnu qui, de plus, jouait au chat et à la souris avec elle. C'était une de ces petites enveloppes blanches. Arrivée dans sa chambre, Sophie lut trois nouvelles questions sur le bout de papier à l'intérieur. Existe-t-il un principe premier dont tout découlerait? L'eau peut-elle se transformer en vin? Comment la terre et l'eau peuvent-elles devenir une grenouille vivante? Sophie jugea d'abord ces questions passablement farfelues, mais elles lui trottèrent dans la tête toute la soirée. Le lendemain à l'école, elle reconsidéra les trois questions les unes après les autres dans l'ordre. S'il existait un principe premier, dont tout découlerait, à supposer qu'il existe bel et bien une matière à l'origine de tout ce qui se trouve sur Terre, comment expliquer qu'elle puisse prendre la forme d'un bouton d'or, ou pourquoi pas celle d'un éléphant? La même remarque s'appliquait à la deuxième question. Sophie connaissait certes l'histoire de Jésus qui transforma l'eau en vin, mais elle ne l'avait jamais prise au pied de la lettre. Et si Jésus avait malgré tout réussi à changer l'eau en vin? C'était justement un miracle, c'est-à-dire normalement quelque chose d'impossible. Elle avait beau savoir que le vin contient beaucoup d'eau, comme c'est le cas de toute la nature. Si un concombre était à 95% formé d'eau, il fallait quand même qu'il y ait autre chose pour que ce soit justement un concombre et pas seulement de l'eau. Quant à cette histoire de grenouille, son professeur de philosophie semblait avoir une prédilection pour les grenouilles. Sophie acceptait à la rigueur l'idée qu'une grenouille était formée de terre et d'eau, mais dans ce cas, la terre ne pouvait pas être constituée d'une seule matière. Si la terre était composée de différentes matières, alors on pouvait bien sûr imaginer que l'alliance de la terre et de l'eau produise une grenouille. Sans oublier de passer par l'œuf de grenouille et le têtard. Une grenouille ne poussait pas comme ça dans le potager, même si on l'arrosait très consciencieusement. Quand elle revint de l'école cet après-midi-là, une grosse enveloppe l'attendait dans la boîte aux lettres et Sophie alla l'ouvrir comme les jours précédents dans sa cabane. Le projet du philosophe. Ah, te revoilà. Nous allons tout de suite examiner la leçon du jour sans passer par les lapins blancs et autres préliminaires de ce genre. Je vais te brosser à grands traits la façon dont les hommes ont réfléchi aux problèmes philosophiques de l'Antiquité à nos jours. Mais chaque chose en son temps. Du fait que les philosophes vivaient à une autre époque, et peut-être dans une toute autre culture que la nôtre, il n'est pas superflu d'essayer de définir le projet de chaque philosophe. Pour cela, nous devons tenter de cerner les centres d'intérêt spécifiques du philosophe. Tel philosophe peut s'intéresser à l'origine des plantes ou des animaux, tel autre à l'existence de Dieu ou à l'immortalité de l'âme. Une fois ce projet clairement défini, il devient plus facile de comprendre la démarche de chaque philosophe. Car un philosophe ne s'intéresse pas à toutes les questions philosophiques à la fois. Je dis un et non une philosophe, car l'histoire de la philosophie est jalonnée par des hommes. Les femmes ont été opprimées en tant que femmes et aussi comme êtres pensants. C'est dommage, car de cette manière, nous avons perdu beaucoup de précieux témoignages. Ce n'est qu'au XXe siècle que les femmes ont enfin pu prendre une place dans l'histoire de la philosophie. Tu n'auras pas de devoirs à faire à la maison. En tout cas, pas de problème difficile comme en mathématiques. Quant à la liste des verbes irréguliers en anglais, j'en ai vraiment rien à faire. Je te donnerai tout au plus un petit exercice d'application de temps à autre. Si tu acceptes ces conditions, on peut commencer. Les philosophes de la nature. Les premiers philosophes grecs sont souvent appelés les philosophes de la nature, parce qu'ils s'attachaient avant tout à la nature et aux phénomènes naturels. Nous nous sommes déjà interrogés sur l'origine du monde. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui pensent que quelque chose est né, pour ainsi dire, du néant. Cette pensée était loin d'être répandue chez les Grecs. Eux soutenaient, pour une raison ou pour une autre, qu'au contraire, quelque chose avait toujours existé. Comment tout avait été créé à partir du néant ne constituait pas le fond du problème. Par contre, les Grecs se demandaient comment l'eau pouvait se transformer en un poisson vivant, la terre inanimée faire pousser de grands arbres, et le ventre de la femme donner vie à un petit enfant. Les philosophes avaient sous les yeux les changements perpétuels de la nature. Mais comment les expliquer ? Comment la matière pouvait-elle changer de nature et devenir quelque chose de complètement différent? Par exemple, quelque chose de vivant? Les premiers philosophes croyaient qu'il existait une substance élémentaire à l'origine de toutes ces métamorphoses. Difficile de savoir comment ils en vinrent à cette idée, mais une chose est sûre. Ils développèrent la conception d'une substance élémentaire dissimulée derrière chaque forme créée dans la nature. Il devait y avoir quelque chose à l'origine de tout et vers quoi tout retournait. Les diverses réponses auxquelles aboutirent les premiers philosophes ne doivent pas trop retenir notre attention. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles questions ils posaient et quel type de réponse ils espéraient trouver. Il s'agit donc de nous concentrer davantage sur leur manière de penser que sur le contenu exact de leur pensée. Nous pouvons affirmer qu'ils s'interrogeaient sur les changements visibles au sein de la nature. Ils essayaient de formuler quelques lois naturelles éternelles. Ils voulaient comprendre les événements qui se produisaient dans la nature sans avoir recours aux mythes qu'ils connaissaient. Donc, étudier avant tout la nature elle-même afin de mieux comprendre tous les phénomènes naturels. C'était autre chose que de rendre les dieux responsables de la foudre, du tonnerre, de l'hiver ou du printemps. Le philosophe se libéra peu à peu de la religion. On pourrait dire que les philosophes firent les premiers pas vers un mode de pensée scientifique et furent les précurseurs de ce qui allait devenir la science de la nature. Avec le temps, les philosophes de la nature nous ont laissé peu de traces de ce qu'ils ont dit ou écrit. Le peu qu'il nous reste nous a été transmis par Aristote, qui vécut quelques siècles après eux. Aristote se borne à résumer les conclusions auxquelles étaient parvenus ces philosophes, ce qui ne nous permet malheureusement pas de comprendre comment ils y sont arrivés. Disons que le « projet » des premiers philosophes tournait autour du « principe premier » et de ses métamorphoses au sein de la nature. Les trois philosophes de Milet. Le premier philosophe dont nous ayons entendu parler est Thalès, originaire de Milet, qui était une colonie grecque en Asie mineure. Il voyagea beaucoup. On raconte, entre autres, qu'il calcula la hauteur d'une pyramide en Égypte en mesurant l'ombre de celle-ci au moment précis où l'ombre de son propre corps coïncida avec sa taille réelle. Il aurait également prédit une éclipse de soleil en 585 avant Jésus-Christ. Thalès pensait que l'eau était à l'origine de toute chose. Nous ne savons pas au juste ce qu'il entendait par là. Peut-être voulait-il dire que toute vie naît dans l'eau et que tout retourne à l'eau en se désagrégeant. Se trouvant en Égypte, il a dû voir que la décrue du Nil laissait les plaines du delta fertiles. Peut-être a-t-il également constaté que les grenouilles et les vers de terre sortaient dès qu'il avait plu. Il est en outre probable que Thalès ait observé l'eau se transformer en glace ou en vapeur avant de redevenir de l'eau. On prête à Thalès l'affirmation que tout est rempli de Dieu. Là encore, on ne pourra jamais savoir au juste ce qu'il entendait par là. Était-ce d'avoir vu cette terre de couleur noire être à l'origine de tout, de la fleur au champ de blé en passant par les insectes et les cafards? Il pensait en tout cas que la terre était remplie de minuscules germes de vie invisibles. Rien à voir en tout cas avec les dieux de Homère. Le deuxième philosophe que nous connaissons est Anaximandre, qui lui aussi vécut à Milet. Notre monde n'était selon lui qu'un monde parmi beaucoup d'autres, et comme eux, avait son origine et sa fin dans ce qu'il appelait l'infini, c'est-à-dire l'illimité. Difficile de dire ce qu'il entendait clairement par là, mais il ne s'agissait en aucun cas d'un élément connu comme chez Thalès. Il voulait sans doute exprimer l'idée que ce qui est à l'origine de tout est différent de ce qui se crée. Le principe premier ne pouvait donc pas être tout bonnement de l'eau, mais bien quelque chose d'infini. Le troisième philosophe de Milet s'appelait Anaximène, environ 570-526 avant Jésus-Christ. Lui prétendait que l'air ou le brouillard était à l'origine de toute chose. Anaximène connaissait évidemment la doctrine de Thalès à propos de l'eau. Mais l'eau, d'où venait-elle ? Selon Anaximène, l'eau devait être de l'air concentré. Nous observons l'eau sortir de l'air quand il pleut. Quand l'eau est encore plus concentrée, cela devient de la terre. Sans doute avait-il vu la glace fondre et se décomposer en terre et sable. Dans le même ordre d'idées, le feu n'était pour lui que de l'air raréfié. Tout, la terre, l'eau et le feu, avaient pour seule origine l'air. Il n'y a pas loin de la terre et de l'eau aux plantes qui poussent dans les champs. Seule l'union de la terre, de l'air, du feu et de l'eau permettait de créer la vie, devait-il penser tout en restant convaincu que l'air ou le brouillard était à l'origine de la chaîne. Il rejoint la doctrine de Thalès en affirmant qu'une substance unique était à la base de toutes les formes dans la nature. Rien ne naît de rien. Les trois philosophes de Milet pensaient qu'il existait seulement une substance unique à l'origine du monde. Mais comment une seule matière pouvait-elle prendre autant de formes différentes? Nous appellerons cette question le problème du changement. Vers 500 avant Jésus-Christ, vivaient quelques philosophes dans la colonie grecque d'Élée en Italie du Sud. Et ces Éléates débattaient ce genre de questions. Le plus connu d'entre eux était un certain Parménide, environ 515-450 avant Jésus-Christ. Selon lui, tout ce qui existe a toujours existé. Cette pensée était fort répandue chez les Grecs. Pour eux, rien de plus normal que ce qui existe au monde soit éternel. Rien ne naît de rien, estimait Parménide. Ce qui n'est pas ne peut pas non plus devenir quelque chose. Mais Parménide alla plus loin que les autres. Pour lui, il n'y avait pas de réelle transformation. Rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est. Il était bien conscient que la nature offrait des formes en changement perpétuel. Ses sens percevaient comment les choses se modifiaient. Mais sa raison lui tenait un autre discours. Et quitte à choisir entre les sens et la raison, il préférait se fier à sa raison. Tu connais l'expression « ne pas y croire avant de l'avoir vu de ses propres yeux » ? Eh bien, pour Parménide, tout ça, c'est du vent. Les sens, selon lui, nous donnent une fausse image du monde, une image qui ne correspond pas à ce que dit la raison. Son travail de philosophe consista à mettre en évidence la trahison des sens sous toutes ses formes. Cette foi inébranlable dans la raison de l'homme, cela s'appelle le rationalisme. Un rationaliste est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance au monde. Tout s'écoule. À la même époque que Parménide, vivait Héraclite, environ 540-480 avant Jésus-Christ, qui, lui, était originaire d'Éphèse, en Asie mineure. Que tout change constamment de forme, tel était, selon lui, le trait caractéristique de la nature. Nous pouvons peut-être avancer que Héraclite faisait plus confiance au sens que Parménide. « Tout s'écoule, dit Héraclite. Tout est en mouvement et rien n'est éternel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas descendre deux fois dans le même fleuve. Car quand je me baigne la deuxième fois, le fleuve a changé, et moi aussi. » Héraclite mit aussi l'accent sur les oppositions inhérentes au monde. Si nous n'étions jamais malades, nous ne serions pas ce qu'est la santé. Si nous ne souffrions jamais de la faim, nous ne connaîtrions pas la joie d'avoir assez à manger. S'il n'y avait pas la guerre, nous n'apprécierions pas la paix à sa juste valeur. Et si l'hiver n'existait pas, nous ne pourrions pas assister à l'éclosion du printemps. Le bien comme le mal ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses, selon Héraclite. Sans le jeu constant entre ces contraires, le monde n'existerait plus. Dieu est le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la guerre et la paix, la faim et la satiété, déclarait-il. Il employait le terme « Dieu », mais il va sans dire qu'il ne faisait aucunement référence au Dieu des mythes. Pour Héraclite, Dieu, ou le divin, est quelque chose qui englobe le monde entier. Dieu se manifeste justement dans les transformations et les contrastes de la nature. À la place du mot « Dieu », il emploie souvent le terme grec « logos ». Cela signifie « raison ». Bien que nous autres hommes ne pensons pas la même chose, ni n'avons la même faculté de raisonner, il doit toutefois exister, selon Héraclite, une sorte de raison universelle qui gouverne tout ce qui se passe dans la nature. Cette raison universelle, ou cette loi universelle, est commune à tous et chacun doit s'y référer. Cependant, d'après Héraclite, chacun n'en fait qu'à sa tête. Comme tu vois, il ne tenait pas les autres hommes en très haute estime. L'opinion de la plupart des gens peut se comparer à des jeux d'enfants, disait-il. Derrière toutes ces transformations et oppositions de la nature, Héraclite voyait donc une unité ou un tout. Ce « quelque chose » à l'origine de tout, il l'appelait « Dieu » ou « Logos ».